Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jacques Aumont, qui publie « Limites de la fiction, considérations actuelles sur l'état du cinéma » chez Bayard. La scène de ménage a encore quelques beaux jours devant elle. Je rappelle, Jacques Aumont, que vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur aux Beaux-Arts de Paris. Mais si vous venez de temps en temps au micro du jour au lendemain, c'est parce que vous écrivez sur le cinéma. Le cinéma qui, comme vous le disiez dans votre grand ouvrage sur les histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, Amnésie, Fiction du cinéma d'après Jean-Luc Godard, publié chez POL en 1999, cinéma qui n'a pas succédé à la peinture, encore moins au théâtre ou à la musique, mais à la littérature et elle seule.
Elle seule, ça, c'était peut-être lancé un peu vite dans la foulée de Godard, mais au fond, si on prend beaucoup de recul, un recul d'historien ou d'anthropologue, comme on aime dire maintenant, c'est vrai que le cinéma, quand même, en masse, sans entrer dans les détails de telle ou telle sorte de cinéma, a joué au XXe siècle le rôle qu'a joué le roman au XIXe siècle. C'est très vite lancé, pas très difficile à argumenter pour l'essentiel. Et bien sûr, il y a des petits détails dans lesquels c'est pas vrai. Ça, c'est intéressant que vous ayez cité ce livre de 99 qui s'articulait sur une entreprise qui elle-même était vraiment une sorte de fin de siècle, les histoires du cinéma de Godard, ou quelqu'un qui est le cinéaste et essayiste qu'on connaît bien encore aujourd'hui, se livrait à une méditation mélancolique, au fond, sur fond de quelque chose se termine. Ce qu'on pouvait penser il y a 15 ans ou 20 ans, on doit forcément le déplacer aujourd'hui. Et au fond, je dirais que la raison d'être de ce petit livre qui vient de sortir, c'est exactement celle-là. C'est pourquoi je l'ai sous-titré « Considérations actuelles sur l'état du cinéma ». C'est pas uniquement pour faire un clin d'œil à Nietzsche et réclamer le droit d'être actuel et pas toujours inactuel, mais c'est simplement que les choses ont changé.
Il y avait tout de même un palier intermédiaire dans votre œuvre d'écrivain du cinéma. C'est le livre que vous avez publié au Cahier du cinéma en 2007, « Moderne, comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts », où vous disiez que le cinéma était né hors de l'art, comme une curiosité scientifique, un divertissement populaire et aussi un média, même s'il a été très vite revendiqué comme un art et comme un médium.
Oui, bien sûr, mais tout ça est vrai. Mais si vous voulez, ce qui se passe depuis 40 ans pour quelqu'un de mon âge, qui a réfléchi sur le cinéma de diverses façons, c'est que il y a quand même une contrainte externe qui s'exerce sur moi, sur nous. On ne peut plus continuer à penser le cinéma comme on l'a pensé, comme cette espèce de personnage au fond très sympathique, avec beaucoup de qualité, de générosité, de vérité, d'authenticité. Le personnage que Godard dessine hein, dans ce personnage qui est une grande mémoire, alors une mémoire compliquée parce qu'elle est composite, elle joue sur le montage, etc. Mais enfin bon. Aujourd'hui, le cinéma, il n'est plus tout seul, contrairement justement à... Vous vous rappelez dans les histoires du cinéma, la première ou deuxième épisode, c'était seul le cinéma et l'autre, c'était le cinéma seul. Le cinéma n'est plus seul. Le cinéma n'est plus seul. Et la raison d'être du petit livre sur le moderne avec un point d'interrogation, d'un autre livre avec point d'interrogation très bref aussi, qui s'appelait il y a 2 ans « Que reste-t-il du cinéma ?» et de celui-ci, c'est d'essayer de se demander, non pas tant ce que devient le cinéma, parce que une question au fond, ce genre de question, c'est pas la meilleure façon de réfléchir, mais de se demander si ce qu'a été le cinéma existe encore aujourd'hui, si d'autres virtualités du jeu de l'image en mouvement arrivent, ou si les choses se sont reconfigurées. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de cinéma. Il reste même beaucoup de gens, y compris dans les générations plus jeunes, y compris des gens de 30 ans, qui continuent de faire des films selon la conception qu'on a eue, disons, non pas à l'époque classique, mais après la nouvelle vague, pour aller vite. J'ai été voir avant-hier un film dont les critiques de cinéma avaient dit grand bien, qui s'appelle Mouton, qui est fait par 2 jeunes cinéastes français dont je m'excuse de ne pas avoir retenu le nom. Je m'excuse auprès d'eux, mais je suis sûr que s'ils continuent, je retiendrai vite leur nom. Parce qu'ils ont fait un travail très intéressant où, justement, ils font un film qui dure 1h40 avec des personnages, avec un développement dramatique et en même temps avec une réflexion extrêmement intelligente sur la façon dont aujourd'hui on peut raconter une histoire. Alors, chez eux, ça prend 2 formes spectaculaires. L'une, la première, c'est que le film est cassé au milieu par un grand changement de mode de récit. On a déjà vu ça plusieurs fois ces dernières années. Et puis l'autre, c'est qu'on flirte avec le documentaire. Voilà un exemple d'une façon très, très intéressante dont le cinéma continue, si vous voulez. Alors, c'est la même chose et ce n'est pas la même chose. C'est lui et ce n'est plus lui.
Mais alors, justement, dans ce livre que nous avons cité, « Moderne, comment le cinéma est devenu le plus singulier des arts », et ça nous amène à la limite de la fiction, plutôt que de décrire le cinéma avec un crible aussi grossier, disiez-vous, que classique moderne, vous proposiez « mystique », le mystique qui ne se soucie que d'être dans le vrai. Voilà, et même dans le réel. Dans le réel au sens lacanien, hein, c'est-à-dire l'impossible, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire.
Alors vous mettez le doigt tout de suite sur le principal des problèmes dès qu'on parle de la fiction. La fiction, je vais essayer d'être pas cuistre plus de 30 secondes, c'est presque interdit maintenant, mais la fiction, vous le savez, c'est à la fois une invention et une organisation. C'est une production signifiante. On produit quelque chose, généralement sous forme de récit, mais pas seulement. Et peut-être on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'au marge du cinéma, il y a quelque chose qui frappe très fort à la porte, qui est le jeu vidéo. Mais c'est ça quand même depuis toujours. Hein, depuis qu'on se racontait des histoires au coin du feu chez nos ancêtres paléolithiques, c'est ça la fiction, le mythe, etc. Et puis c'est l'organisation, c'est-à-dire que ça sert à quelque chose. On ne fait pas ça juste pour passer le temps. On le fait parce que raconter des histoires ou fabriquer des mythes ou fabriquer des univers imaginaires, ça sert à se repérer dans le monde réel, tout simplement. Ça sert à... On produit des œuvres de mots, de littérature, des œuvres d'images qui ont une rationalité et qui, surtout, exhibent une causalité. On met de l'ordre dans le monde avec la fiction. Alors, c'est bien là qu'est le problème crucial, si vous voulez. C'est quand même une des grandes, grandes façons. J'en vois pas tellement d'autres aussi importantes à échelle globale. C'est une des grandes façons que l'espèce humaine a trouvé d'affronter ce que vous disiez, l'impossible du réel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'impossible du réel? Parce que la phrase de Lacan, elle est célèbre, mais elle est évidemment un peu obscure. Enfin, elle peut l'être. Elle est forcément obscure, puisqu'elle touche à une énigme fondamentale. Le réel, on ne saura jamais ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que le monde, on ne sait pas pourquoi. Toutes ces grandes questions métaphysiques, on peut les refouler ou les traiter, ou les contourner, ou les traiter comme la science, au fond, par des récits, là aussi. Mais on n'y voit pas plus clair pour autant. Donc la vraie limite de la fiction, la seule, au fond, essentielle, c'est celle-là. C'est que la fiction, elle est une façon de plus pour nous de nous comporter dans le monde en espérant que quelque part, il y a quelque chose du réel qui va pointer. Mmh. En espérant.
Notre principal moyen de pénétrer la réalité.
C'est un des principaux moyens. Je ne sais pas si à échelle historico-anthropologique, puisque maintenant il faut absolument se référer à ces deux grandes sciences sociales, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens aussi importants que la fiction. J'en vois pas vraiment. On pense l'art, bien sûr, mais art, c'est autre chose. C'est une catégorie d'un type un peu différent. Quand on dit fiction, on pense à une activité de l'esprit qui a connu des formes extrêmement différentes depuis des millénaires, mais enfin qui est, je dirais pas identique à elle-même. J'aime pas beaucoup l'universalisme ou l'essentialisme, mais au fond, qui renvoie toujours aux mêmes activités de l'esprit. Tandis que quand on dit art, on pense à des choses très différentes selon les époques. Si on cherche, je ne sais pas, quelles sont les grandes activités humaines, après, il faut passer dans le domaine de l'action. Il faudrait une philosophie de l'action. Je ne sais pas, allons relire Hannah Arendt et pensons à la politique, c'est-à-dire à la guerre. Aujourd'hui, c'est plutôt l'économie que la guerre, mais on voit bien que c'est la même chose. Donc il y a comme ça, je crois, un certain nombre de grandes fonctions de l'esprit d'un côté et de l'existence humaine en société d'autre part, qui sont transversales à toute l'histoire. Et il n'y en a pas beaucoup, en effet. La fiction, je ne vois rien qui ait cette permanence et cette importance.
Alors, votre livre, Jacques Aumont, vous l'avez intitulé « Limites de la fiction ». Et la première limite, si je vous ai bien entendu, c'est la réalité même.
C'est le réel. C'est le réel. Alors, comme le réel ne se manifeste pas à nous, sauf sous des formes indirectes, si on est croyant, le réel, il va nous parler grâce à Dieu. Dieu va donner son sens au monde. On le voyait chez un penseur de cinéma comme André Bazin, qui croyait beaucoup ça et qui, du coup, développait une certaine esthétique. Tout ça était très cohérent, mais évidemment, on ne peut pas en rester là. Le réel, il est masqué, et ce à quoi nous avons affaire, là je suis toujours grossièrement lacanien depuis longtemps, ce à quoi nous avons affaire, c'est pas le réel, c'est la réalité. Et la réalité, c'est le masque, c'est les apparences d'un côté, thème qu'on connaît bien, développé par beaucoup de philosophies, dont Nietzsche, auquel je faisais allusion tout à l'heure. La réalité, c'est aussi tout notre imaginaire. C'est la façon dont nous racontons le monde. Quand je pense à ma soirée d'hier soir avec des amis ou quand j'imagine mon départ en avion après-demain, je suis dans un rapport imaginaire à la réalité, pas au réel. Et du coup, la fiction, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup, au fond, dans son rapport au réel, à notre petite comprenette, à notre façon de nous raconter sans cesse le monde.
Et comme vous l'écrivez, si la fiction est assimilable à mon imaginaire, la réalité ne l'est pas.
Alors voilà, la réalité, malgré tout, elle résiste. La réalité, c'est le récit que je m'en fais, mais il y a quand même toutes sortes de moments où elle fait valoir ses droits. Où le réel à travers elle, disons, pour être un peu cohérent, fait valoir ses droits. Et en effet, alors pour revenir au cinéma quand même, il est clair que, depuis toujours, l'entreprise de fiction au cinéma, elle a buté sur ses exigences de la réalité. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'en général, les cinéastes l'ont su. Ils ne l'ont pas forcément su dans les termes que j'emploie. Parce que peu de cinéastes réfléchissent en théoriciens, mais ils l'ont su concrètement. ils ont su, par exemple à travers un biais évident pour tout cinéaste qui raconte des histoires, qui est le biais de l'acteur, ils ont su qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi à un corps d'acteur et même à un psychisme d'acteur. Et tout ce qu'on a appelé la direction d'acteur, ben au fond, ça a été une série de comportements qui ont visé à apprivoiser le fait qu'on veut raconter une histoire en la faisant incarner par des corps d'acteurs, mais pour ça, il faut tenir compte de ce corps. Et comme vous le savez, un corps, c'est énigmatique aussi. Hein, la fameuse phrase de Spinoza, on ne sait toujours pas ce que peut un corps. Voilà, donc, en effet, ça surgit tout le temps, cette exigence du réel. Si on est dans le cinéma documentaire, ben mon Dieu, ça prend des formes encore plus apparentes et plus évidentes. Hein. On ne peut pas raconter n'importe quoi, mais en même temps, un documentaire, ça n'est pas un document. C'est pas la réalité brute. C'est un document plus une organisation causale qui va manifester un point de vue. Voilà, je l'ai dit de façon un peu précise. C'est-à-dire qu'on met les choses en ordre. On dit, bah, ce que je vois là, j'ai enquêté pendant tant de temps sur ce terrain, avec des paysans, avec qui on veut. Je vous le raconte d'une façon telle que vous compreniez le sens que je lui donne.
Et le premier cinéaste que vous citez dans le livre, c'est Jean Rouche.
Oui, j'ai commencé par Jean Rouche, mais de façon un peu tordue, parce que Jean Rouche, dans le film que j'ai longuement commenté, enfin, que j'ai un peu commenté, qui s'appelle « Les maîtres fous », bien sûr, il est ethnographe à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui rencontre des gens dont il n'est pas absolument familier au départ, il se familiarise avec eux, il enregistre avec une caméra et un magnétophone des rites que ces gens pratiquent, mais en même temps, ces rites sont déjà eux-mêmes organisés sous forme fictionnelle. Donc l'exemple des maîtres fous est un exemple au second degré. C'est une fiction sur une fiction ou un documentaire sur du spectacle ou une sorte de mélange d'un peu tout ça. C'est-à-dire que c'est un discours sur un discours sur le monde. Mmh. Il filme des gens qui ont des rites d'ailleurs très sanglants par lesquels ils cherchent à comprendre le monde, en effet, sous l'inspiration d'esprits qui vont venir les habiter. C'est des rites de possession. C'est un cas un peu particulier, mais j'ai commencé par là parce qu'au fond, on y voit à l'extrême un peu tous les problèmes du cinéma documentaire d'une part, mais aussi du cinéma de mise en ordre du monde qu'est la fiction.
C'est-à-dire que le documentaire est indissociable de la fiction, de même que le film de fiction
est envahi par le document.
Oui. Mais ça, je crois que c'est, je l'ai dit et j'ai développé cette idée dans mon livre, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit entièrement originale parce que, enfin, j'espère que non d'ailleurs. Je pense que depuis, je ne saurais pas dire, 10, 20 ans, il y a de plus en plus de films documentaires dans lesquels le cinéaste sait qu'il raconte quelque chose, qu'il donne un point de vue. Des gens comme l'école russe, par exemple, hein, prenez Losnitsa, par exemple, ou Sokurov, des gens comme ça, qui ont fait beaucoup de films documentaires ou semi-documentaires, ils les font toujours en se mettant en jeu, eux, en parlant, en disant ce qu'ils veulent nous faire voir dans ce qu'ils nous montrent. Ou alors ils s'absentent complètement, mais l'organisation du film est telle que ça nous prend par la main. Et inversement, il y a beaucoup de films de fiction depuis, je dirais là aussi, peut-être deux ou trois décennies, qui incluent beaucoup, beaucoup d'éléments documentaires. On le voit très, très bien dans un courant du cinéma qu'on appelle parfois « slow films », les films lents, ou bien il y a un jeune homme là qui vient de faire un livre qui les appelle les films soustractifs, l'épithète est pas mal aussi. Ce sont des films, je pense aux films de Wirasete Akul, aux films de Lisandro Alonso, d'Albert Serra, de tous ces quadras quinquagénaires, peut-être un peu plus jeunes parfois, qui font des films dans lesquels on a des plans un peu longs, où parfois il ne se passe pas grand-chose et où on laisse justement venir, comme ça, au spectateur, quelque chose qui a été capté. Souvent, c'est des films avec des acteurs amateurs ou en partie. Et ça, c'est une tendance de fond dans le cinéma mondial. Pas dans le cinéma américain, ou très peu dans le cinéma américain, à la marge, mais dans le cinéma mondial, oui. Et beaucoup dans le cinéma asiatique ou sud-américain, par exemple.
Mais quelles que soient les visées du cinéaste et le genre auquel il se réfère, est-ce que le montage et le tournage ne sont pas, par définition, producteurs de fiction ?
Le montage, à coup sûr. Hein, le montage est producteur de tout. Le montage est producteur de sens. D'abord, je reviens à Godard et à son affirmation qu'au fond, la seule invention du cinéma, c'était le montage. Et c'est un point de vue qui peut se défendre. Parce que un film, ça n'est pas l'enregistrement en continu d'un fragment de réalité. Il y a quelqu'un qui l'a dit de façon peut-être plus aimable et plus frappante encore, c'est Pasolini. Quand il vituperait le plan séquence, il trouvait qu'un plan trop long, c'était vraiment faire trop confiance à l'enregistrement pur et qu'il fallait monter. Et il avait été jusqu'à dire « Seul le montage donne un sens au film, comme la mort donne un sens à notre vie. Bon, » c'est extrême comme formulation, mais au moins on la retient. Et c'est ça le montage, c'est ce qui va donner le sens. Alors à coup sûr, c'est une intervention, bien sûr. Hein, tout film, à partir du moment où il est monté dans un certain ordre, atteint un certain sens. Et d'ailleurs, je dois dire que personnellement, c'est ce qui me trouble beaucoup dans certaines formes d'images mouvantes d'aujourd'hui, comme le web docu, qui, je le rappelle, est par définition non monté. Hein, on vous donne sur un site web dédié un certain nombre d'éléments du film, mais c'est à vous ensuite de faire votre parcours. Ou comme le jeu vidéo, dans lequel la logique d'ailleurs est un petit peu comparable, c'est vous qui faites le montage à tout le moins. L'univers est clos, mais c'est vous qui montez. Et du coup, je n'arrive pas à assimiler ça tout à fait à des fictions, parce que pour moi, la fiction est un discours quand même. Mmh. C'est quelque chose qui cherche un sens, c'est quelque chose qui affirme.
Godard, encore lui, a une excellente définition. Si fiction, ce qui m'arrive à moi, alors documentaire, ce qui arrive à l'autre.
Oui. Comme toutes les phrases de Godard, on a toujours envie de dire l'inverse. Hein, c'est fiction, c'est ce qui arrive à l'autre. Documentaire, c'est ce qui m'arrive à moi. Ça marche aussi. Non, l'important, c'est pas forcément la répartition des rôles, mais c'est cette idée de l'autre. Ce qui continue de m'importer, si vous voulez, dans le cinéma, c'est que c'est une forme signifiante. Je vais arrêter de dire un art parce que ça devient compliqué, mais c'est un ensemble de productions signifiantes qui pensent à l'autre, hein, toujours. Quand je vois un film, je suis forcé de savoir qu'il y a des autres. Quand je suis dans un jeu vidéo, pardon de cette récurrence, mais je peux rester avec moi-même. Et même, je suis plus ou moins convié à rester avec moi-même parce que les autres qu'on me propose, ce n'est que moi. C'est moi qui les habite, au fond.
Ça vous arrive de faire des jeux vidéo ?
Eh bien, personnellement, pas vraiment. Mais je crois d'une part que je vais m'y lancer. Et d'autre part, j'ai beaucoup, beaucoup de très jeunes gens autour de moi, en particulier aux Beaux-Arts de Paris. Et je me fais faire des démonstrations, oui. L'univers du jeu, on pouvait, quand on était un intellectuel, vaguement le mépriser il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, il a beaucoup évolué et il faut s'en occuper. Et il évolue beaucoup. Les jeux qu'on produit sont de moins en moins stupides. C'est de moins en moins le first-person shooter où on passe son temps à dégommer un ennemi. C'est de plus en plus des choses qui peuvent devenir subtiles. Donc pourquoi pas, il faut voir. Si les images servent à ça, on peut s'interroger. Mais pour l'instant, le jeu n'a pas encore de sens, à mon avis.
Il y a quelqu'un, Jacques Aumont, que nous n'avons pas encore cité ce soir, c'est Serge Danet, qui s'est demandé ce qui se passe quand la réalité dépasse la fiction.
Ça, c'est une phrase à laquelle j'ai du mal à donner un sens. La réalité dépasse la fiction. On a beaucoup dit ça à une époque.
Ah oui, parce qu'il y avait toute une série de livres qui s'intitulaient comme ça.
Qui voulaient dire tout simplement que les scénarios de la réalité sont parfois plus amusants, plus étonnants, plus vertigineux, plus inventifs que ceux des romanciers. Ce qui peut être vrai, mais il y a quand même une grande naïveté dans cette idée de la réalité dépasse la fiction. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne dirait plus aujourd'hui, parce que la fiction est devenue tellement, non pas interchangeable avec la réalité, ce serait idiot de dire ça, mais il y a tellement de réalité dans les fictions qu'on produit maintenant, et inversement, tellement de mise en forme fictionnelle dans la façon dont toute réalité nous est donnée. Parmi les phénomènes nouveaux qui sont arrivés depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis la mort de Serge Danet, il y a la télé-réalité aussi, hein, pour laquelle, évidemment, je n'ai pas une très grande estime à aucun point de vue, ni formel, ni idéologique, mais qui existe très fort et qui ancre beaucoup des idées à propos de la réalité qui se retrouvent dans les films.
Je crois que Danet pensait à Nuit et brouillard.
Oui, alors évidemment, si on pense à de grands événements historiques qui sont presque irracontables, comme la Shoah, là on est dans un autre cas, parce que à propos de la Shoah, où est la réalité ? Là, on est justement dans le cas d'un événement, alors un événement historique énorme, en l'occurrence. Il y en a d'autres peut-être à plus petite échelle, dans lequel on est face à du réel, justement. C'est-à-dire à quelque chose d'impossible, à quelque chose d'impensable. Tous les uns vont se multiplier, inadmissible, bien entendu. Donc là, on est typiquement face à une épreuve qui, pour moi, est une épreuve de réel, la Shoah. C'est-à-dire que je ne peux pas le penser. Et je pense que je ne suis pas le seul à dire une chose pareille. Alors, une entreprise qui vise non pas à apprivoiser la Shoah, c'était pas le cas de René d'ailleurs, hein, qui parlait pas de la Shoah, mais des camps de concentration. C'était pas tout à fait la même chose. Mais une entreprise de fiction ou de cinéma, par exemple, qui veut en parler, elle ne pourra jamais donner que de l'imaginaire par rapport à ça. Elle est absolument impossible. Alors, en ce sens-là, bien sûr, le réel dépasse totalement la fiction, le réel. Mais le sens de la réalité dépasse la fiction en général, c'est simplement des histoires un peu étranges qui arrivent dans la réalité. Et Dieu sait qu'il en arrive, bien sûr. Je suis de moins en moins frappé par cette idée. J'ai l'impression que, peut-être parce que le cinéma a changé, mais je vois de plus en plus de films qui font leur part justement à ce côté inattendu, invraisemblable de la réalité.
Je citais le mot mystique tout à l'heure, qui brille dans votre livre moderne, point d'interrogation. Et là, dans celui-ci, vous dites que ce qu'on appelle fiction suppose une attitude mentale paradoxale qui fait qu'on croit en ne croyant pas.
Oui, alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le béaba de toute définition de la fiction. Ou plus exactement de la définition de l'attitude mentale du consommateur ou du destinataire de fiction. La fiction, c'est quelque chose qui est produit de façon délibérée, c'est un artefact. Ça ressemble très très fort à nos productions mentales, mais justement, c'est délibéré. Et par conséquent, on ne peut pas s'y tromper. Si je suis dans ma tête et que je fais du wishful thinking, il y a un moment où je peux confondre et me dire que ce que je souhaite tellement, au fond, c'est la réalité. Je souhaite que la jeune personne qui est là soit folle amoureuse de moi, et je vais finir par le croire, peut-être. Mais devant une fiction, non, parce que la fiction, elle est ce qu'elle est, malgré tout.
C'est-à-dire une fiction,
mais c'est-à-dire surtout quelque chose qui se donne dans un énoncé limité. C'est pas illimité. C'est pas sans fin. Un roman, il y a un début, un milieu, une fin. C'est aristotélicien, le roman. Et puis le film, au sens canonique aussi. Il y a un début, un milieu, une fin. Alors, peut-être qu'on peut imaginer des fictions qui font l'économie de l'aristotélisme, mais même des fictions comme celle-là sont limitées. Et du coup, je ne peux pas battre la campagne devant une fiction comme devant mon imaginaire. C'est ça la grande différence. Et c'est pourquoi il y a cette attitude mentale très, très paradoxale, mais vieille comme le monde, qui est que je sais que c'est inventé, mais quand même, je vais m'y intéresser suffisamment pour avoir le sentiment d'y croire pendant un moment, parce que c'est comme ça que ça sera rentable. C'est comme ça que ça sera que ça communiquera quelque chose. Si je n'y crois pas du tout, ça ne me dira rien.
Donc, vous y croirez, mais vous savez, et vous n'oubliez pas, que c'est une fabrication
voilà.
Humaine.
Il vaut mieux ne pas l'oublier.
Est-ce que c'est ça, la vraie limite de la fiction ?
Oh, ça, je ne vois pas ça comme une limite, personnellement. Je vois ça comme une condition de la fiction. Elle marche comme ça, depuis toujours et encore aujourd'hui. elle marche pour des gens qui acceptent de passer un contrat ou un pacte avec une œuvre en disant ben, « je sais que c'est inventé, que ça a été fabriqué ». Plus ou moins en reposant sur une certaine dose de réalité qu'il s'agira ensuite d'examiner, mais de toute façon, pendant que j'y suis, pendant que je lis ou pendant que je regarde le film, eh bien, je décide d'entrer dedans et de faire comme si c'était la réalité. C'est pas une attitude très compliquée, on la pratique tous spontanément. Mais elle veut dire qu'en effet, je me réserve le droit d'examen.
Il y a aussi dans le livre... une sorte de bilan de ce que les 20 dernières années ont pu apporter et modifier dans notre conception des choses par rapport à ce problème de la fiction. Le cinéma, par exemple, n'est pas identifiable à l'art contemporain, mais les révolutions de ces dernières années l'ont tout de même beaucoup transformé.
Oui, oui, j'ai parlé du jeu tout à l'heure, mais c'est vrai que l'autre grand phénomène, alors à échelle différente, parce que ça concerne moins de monde, c'est l'art contemporain, ce qu'on appelle commodément comme ça, terme qui devient de plus en plus difficile à cerner. Entre autres, tout simplement parce qu'avec le développement de la technique numérique, qui rend tout assez facile à produire, et bien de plus en plus d'artistes font des images en mouvement, les présentent dans des expositions, et... dans certains cas, de telle sorte que la frontière entre ce qui est du cinéma et ce qui n'en est pas devient assez labile et parfois difficile à dessiner. J'ai donné dans mon livre deux ou trois exemples. D'un côté, d'œuvres d'artistes qui ont des qualités proprement cinématographiques. Par exemple, les films, oui, on peut appeler ça des films de David Clairbout. Et puis inversement, des œuvres de cinéma faites par des cinéastes et qui ressemblent par certains côtés assez fort à ce qu'on voit dans des installations au musée d'art contemporain. Par exemple, les films d'Alonso ou ceux d'Albert Serra, qui d'ailleurs, Serra est d'ailleurs aussi artiste contemporain. De plus en plus de gens de moins de 30 ans se considèrent à la fois ou alternativement comme cinéaste et comme artiste contemporain. Là, oui, les frontières sont brouillées, mais... je pense quand même qu'il reste des différences.
L'un des éléments nouveaux aussi, est-ce que c'est pas que nous ne croyons plus tellement dans ce monde ?
Ah, alors ça, c'est une grande question. Est-ce que, enfin, les gens de mon âge, moi, j'ai pas l'intention de changer. Je continuerai à croire en ce monde comme la seule réalité, je crois, jusqu'à mon dernier souffle. Enfin, on sait jamais, on peut toujours changer. Mais je pense qu'en effet, chez les gens de 20 ans, que je fréquente beaucoup, puisque j'ai encore, par chance, des étudiants autour de moi, la croyance à la réalité du monde est quelque chose qui n'est plus tout à fait de l'ordre de l'évidence. Oui.
Le livre de Jacques Aumont, Limite de la fiction, considération actuelle sur l'état du cinéma, est publié chez Bayard. Du jour au lendemain, Jean-Michel Bernaud, Clotilde Pivin, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.